Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Au sommaire de cette émission, eh bien une spéciale BD. Vous allez voir qu'on va vous conseiller pour le mois de juin ou bien encore pour votre été quelques albums absolument magnifiques, très noirs mais aussi pleins de couleurs. Et puis, comme d'habitude, dans une deuxième partie, quelques coups de cœur avec un livre venu des États-Unis et deux romans français, dont un se passe il y a quelque temps. Jacques, je te laisse commencer ton premier coup de cœur de BD.
Donc, mon premier coup de cœur, en fait, c'est vrai que ces temps-ci, et puis particulièrement aujourd'hui, en fait, on va évoquer des BD qui, bizarrement, sont des adaptations de polar déjà existants. Ça ne veut pas dire que les scénaristes de BD n'ont pas d'idées, mais peut-être qu'ils trouvent leur content dans des textes déjà existants.
On peut en dire la même chose des films, donc effectivement, les adaptations de romans noirs se prêtent bien à l'image.
Tout à fait. Donc, bon, il y a la collection Casterman Rivage Noir, qui s'en est fait une spécialité, on en parlera tout à l'heure. Mais l'auteur dont je vais parler, qui s'appelle Olivier Berlion, a déjà participé d'ailleurs à la collection Casterman Rivage Noir en adaptant un roman d'Elmore Leonard qui s'appelle Le Clit de l'eau, Oklahoma.
Mais, c'est un état américain, hein, si vous n'avez pas compris.
Mais avec cette mise en page et dessin, donc l'adaptation de La Commedia des ratés de Tonino Benacquista, à mon sens, Olivier Berlion passe carrément au niveau au-dessus. Dans Le Kid, il avait très bien su faire passer l'ambiance poussiéreuse du sud des États-Unis. Là, c'est l'Italie qu'il rend super bien. Je dirais presque l'italianité.
Ah, moi, dans la couverture, j'allais dire la méditerranéité. Bah donc,
voilà. Mais bon. Quand il dessine, par exemple, la fameuse recette des pâtes à la arrabbiata, on sent dans le dessin l'ail, la tomate, on entend le commentateur de la RAI. Puis il y a un zoom sur les décolletés de la cuisinière et la case d'après, un gros plan sur la poêle avec l'ail qui mijote.
Je me demande si ces propos ne sont pas un peu sexistes, mais bon, on en discutera.
Il s'attache beaucoup aux détails pour rendre ses aquarelles très très réalistes. Ses personnages sont très bien rendus, il fait souvent des gros plans sur une partie du visage, des visages qui sont souvent très expressifs. Pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, je vous raconte quand même un petit bout de l'histoire.
Oui, parce que La Commedia des ratés de Benacquista, tu parles de la célèbre scène des peignés à l'arabiata.
Voilà, bon. Donc en fait, je retrace un peu l'histoire du roman. C'est Antonio Pocinelli, excusez-moi pour l'accent, c'est un banlieusard parisien, mais fils d'émigrés italiens. Il hérite d'un ami d'enfance qu'il venait juste de retrouver, Dario. Dario, il a été révolverisé et il lui a légué une vigne dans les montagnes du sud de l'Italie, dans un patelin dont leurs familles sont originaires.
On a vu pire comme héritage.
Mais en fait, ce qui l'étonne beaucoup, c'est qu'il a mis tout son argent pour acheter cette vigne et que la grande réputation de cette vigne, c'est surtout de faire de la piquette. Alors quand les balles vont pleuvoir, eh ben, il va quand même s'intéresser à cette vigne, il va voir pourquoi et il va essayer de voir quel vin, entre autres, on peut en faire.
J'espère que ce ne sera pas en vain.
Ce ne sera pas en vain. Alors bien sûr, c'est un très très léger bémol, comme dans la BD dont tu vas peut-être parler tout à l'heure, sûrement même. Il y a une légère frustration, c'est que c'est que le tome 1. Donc quand on dit le tome 1, on se doute bien qu'il va y en avoir un autre. Alors si vous voulez vraiment savoir la fin de l'histoire avant le tome 2 qui sort en septembre, eh ben, vous allez à la bibliothèque ou chez votre libraire et puis vous achetez le roman chez Folio Policier pour découvrir la fin de l'histoire. Voilà. Et puis après, ben, vous relirez les deux quand ils sortiront.
Je crois que c'est le très grand plaisir de la lecture et de l'adaptation de faire que, même si on connaît l'histoire d'un roman, on a un grand plaisir à le découvrir, soit en adaptation cinématographique, soit en adaptation de BD. Alors moi, j'ai plus de chance que toi, puisque la BD dont je vais parler maintenant, moi, c'est le tome 2. Donc, d'ailleurs, nous avions eu le scénariste Doug Edline de cette BD il y a à peu près 18 mois. Donc cette BD s'appelle La Princesse du Sang, tome 2, c'est chez Dupuis. Et je parle de Doug Edline, qui est le fils de Jean-Patrick Manchette, dont est tirée cette BD. C'est le dernier roman de Jean-Patrick Manchette, roman inachevé, au dessin, splendide, vraiment une merveille, Max Cabane. Quand le premier tome était sorti, on avait vraiment flashé sur les décors somptueux que le dessinateur avait imaginé pour les personnages de Jean-Patrick Manchette. C'était vraiment un roman d'aventure. On avait reçu Doug Edline, l'adaptateur du texte, et voilà, 18 mois à attendre, c'était long. On était suspendu au dessin de la journaliste Ivory Pearl et de la petite fille Alba qu'elle venait de retrouver dans la Sierra Maestra à Cuba. elle partait, elle s'enfuyait. Bon, je suis obligée, comme tu l'as fait, de résumer un petit peu les événements et, je dirais, le storyboard du livre. Première scène, premier acte de la tragédie, kidnapping d'une petite fille, Alba, un massacre, et ça laisse deux survivants, Maurer et la petite fille. Deuxième acte, 6 ans plus tard, on fait la connaissance de la journaliste Ivy, je vous ai parlé, Ivory Pearl, et de son parrain, un ancien officier de la Royal Air Force, Robert Messenger. Lui, il fricote un peu beaucoup, avec les services secrets. Troisième acte, on est toujours dans le premier tome, pour traquer Aaron Black, qui est l'oncle de la petite fille enlevée au départ, qui a failli être enlevée. Donc, Messenger incite Ivy, qui est une journaliste qui a vraiment pas froid aux yeux, d'aller se reposer, elle en a un peu ras-le-bol de ses reportages borderline, de se reposer loin de toute civilisation, justement dans cette fameuse Sierra Maestra à Cuba. Acte final du premier épisode. Tandis que des mercenaires tentent de retrouver Alba et Maurer, son sauveur, Ivy tombe dessus, pas par hasard, par le biais évidemment de l'écrivain. Et pour sauver la fillette, elle la prend et elle s'enfonce avec elle dans la jungle. Dès les premières pages du deuxième tome, vous allez aimer. Scène de nuit, toute teinte de bleu qui éclaire juste un feu de bois, puis on passe dans un bar louche, de nouveau un massacre, et là on retrouve le rythme, la force des récits de Manchette dans les dessins de Max Cabane et le découpage du récit. Une page plus loin encore, l'aube se lève, on retrouve Ivy, Alba la gamine, et le beau, très beau Maurer, ça il a vraiment fait un beau mec, Max Cabane, qui tente de les protéger de loin. Évidemment, je ne vais pas vous raconter la suite, c'est à vous de le découvrir, mais c'est vraiment une très très belle réussite. Tant par les dessins, je dirais les tableaux de Max Cabane, qui excellent aussi bien à nous plonger dans la jungle cubaine que dans une scène ultra violente avec des effets de caméra quand on passe de case en case. Il y a vraiment un rythme et un œil de caméra absolument incroyable dans le découpage de la BD. Certainement aidé d'ailleurs par le scénario qu'a fait Doggenline. Et Cabane, ainsi que Doggenline, a parfaitement intégré les propos de Jean-Patrick Manchette. Doggenline, son fils, a pu puiser donc évidemment dans les manuscrits du roman inachevé, il a travaillé dessus, mais il a aussi beaucoup travaillé sur les notes laissées par son père. Manchette adorait multiplier les différents types de narration, et ça, Cabane, je ne sais pas vraiment comment il s'y est pris parce que je ne connais pas tellement la technique du dessin, mais en tout cas, ça le rend très bien dans le choix des couleurs et du trait dans les scènes qui se succèdent. Une violence omniprésente, un petit peu comme dans les romans de Jean-Patrick Manchette, mais c'est moins celle des humains que celle de la société que cet album nous raconte. C'était aussi le propos de Manchette. La seule différence de ce dernier roman par rapport au précédent, c'est que là, on a plus une grande aventure dans la jungle cubaine avec un exotisme que les dessins de Max Cabane rendent parfaitement. Donc, je crois, n'hésitez plus. Si vous avez manqué la première partie, payez-vous les deux. Puis tiens, c'est bientôt la fête des pères. Au moins, vous aurez fait un cadeau utile et intelligent. Je signale aussi...
Ah, pour la fête des pères, pour la fête des mères.
Voilà, oui, c'est vrai. C'est très bien. Je ne voudrais pas être sexiste là non plus. Et puis, si vous avez un petit peu plus de sous, il existe une série spéciale, un tirage de tête, comme on appelle ça. Voilà, c'est un petit peu plus cher, mais je pense que pour un cadeau, par exemple, ça vaut le coup. Eh bien, Jacques, je crois que nous allons entendre un petit peu de musique maintenant, mais vu les noms des interprètes et des musiciens, je te laisse
un annoncer. Petit peu de musique, donc, ben, puisque les auteurs de BD faisaient de l'adaptation de textes existants, et ben, ce groupe-là, c'est le groupe de Nguyen Le, qui est un guitariste vietnamien, reprend des chansons de pop des années 70, mais à leur manière. Donc il est accompagné de Ilia Amar aux percussions et de Himiko Paganotti, qui est la fille de Paganotti de Magma, au chant. La chanson s'appelle Redemption Song, l'album s'appelle Song of Freedom, et Redemption Song, bien sûr, c'était une chanson de Bob Marley. Thank you.
semble-t-il, dans la première partie, de nous donner l'éditeur de la BD dont tu as parlé.
Effectivement, donc Olivier Berlion, donc c'est une adaptation de La Comédia des ratés et publiée chez Dargaud.
Voilà, La Princesse du Sang, c'était chez Dupuis. Et donc, et Jacques, tu continues
et
avec...
chez Rivage Casterman Noir, dont je parlais au début de l'émission. La BD dont je vous parlais, c'est Scarface, adaptée par Christian Demeter. L'auteur du texte original, c'est Armitage Trail.
Chose que tout le monde a oubliée.
Vous ne le savez sûrement pas, mais en fait, donc les films, parce que Scarface est surtout connu pour ses adaptations cinématographiques, donc celle de Howard Hawks en 1932, celle de Brian De Palma en 1983, toutes les deux étaient adaptées du roman de Armitage Trail, qui s'appelait Robert Koontz de son vrai nom. Ce roman date de 1929, mais il est traduit qu'en 1992 par Frank Richter chez Rivage. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je la résume rapidement. Tony Guarino est un petit malfrat de Chicago, un fils d'Italien pauvre. Il tue un des caïds de la ville et ne trouve de salut, en quelque sorte, qu'en s'engageant dans l'armée, puisqu'on est pendant la guerre, dans l'armée, qui va se retrouver dans les tranchées de la vieille Europe, où il va récolter cette fameuse blessure qui est le balafleur.
Ah, tu inventes des verbes maintenant.
Balafleuré, oui, c'est ça. Oui, a priori, ça n'existe pas. Démobilisé, en fait, il retourne dans sa ville, dans Chicago. Il prend le nom de Tony Carmonte, car son frère, un Guarino donc, est devenu entre-temps le chef de la police. Carmonte commencera son ascension dans la pègre locale. Comme vous avez vu le film, vous savez aussi que son ascension et sa chute. Je ne vous le raconte pas à la fin, mais bon, je voulais un petit quand même. Et donc, dans la collection Rivage Casterman Noir, c'est Christian Demeter qui fait l'adaptation, donc le scénario et les dessins, 108 magnifiques pages. Il avait déjà transposé le roman de Denis Lehane, de façon assez belle d'ailleurs, Shutter
Shutter
Island,
Island, magnifique adaptation.
qui était devenu d'ailleurs aussi un film en même temps. Et ici, il évite justement l'écueil qu'ont fait certains, c'est en adaptant le livre, il adapte le livre et pas le film, ni celui de Hawks, ni celui de Brian De Palma. Et donc, il crée son propre personnage de Tony Guarnino, et il ressemble donc sous les traits de Christian Demeter, ni à Paul Muni, ni à Al Pacino. Et une nouvelle histoire même, en fait, puisqu'en fait, tous les deux, c'était vraiment des adaptations, ils avaient beaucoup trifouillé le livre. Pour commencer, sa cicatrice sur le visage, car je vous rappelle, pour ceux qui ne parlent pas anglais, que Scarface veut dire balafré.
Scared face.
Scareface, voilà. Donc, elle est nettement plus visible que dans les films où elle est à peine signalée. Elle fait partie intégrante du personnage de Tonino Guarino, et c'est vraiment là le Tony Calmante. Demeter aussi revient aussi sur la période de la guerre en trois planches qui expliquent beaucoup du personnage de Tony de retour à Chicago. Il réussit vraiment ici parfaitement l'adaptation, mais aussi son dessin, ses couleurs, ses éclairages, qui s'adaptent à merveille aux différentes scènes, aux différentes situations. Dans les speakeasies où l'on boit, où l'on danse, c'est très flashy. Dans les fusillades et les poursuites en voiture, c'est des lumières très froides, vertes, bleu nuit. Dans les moments avec les femmes ou avec les flics, c'est encore une autre couleur. Il utilise toute une collection de nuances qui donnent presque une vraie vie, une véritable épaisseur, une dimension, peut-être pas 3D, il ne faut pas exagérer, à ce nouveau personnage, ce personnage qui est finalement un personnage de papier, aussi bien dans le livre que dans la BD. Et qui sait, moi je pense que, osons, que dans quelques années, les nouvelles générations, quand on leur dira, mais vous vous souvenez de Scarface, c'est qui? Ben, peut-être ce sera celui de Christian Demeter.
Je pense que de toute façon, les nouvelles générations ne se souviennent, enfin, n'ont pas vu Scarface. Par contre, il me semble qu'on a un petit peu beaucoup parlé des BD, tout à fait normalement, puisque ça nous enthousiasme. Donc, on va peut-être être obligé de prolonger un petit peu, je pense, Jacques, cette spéciale BD en début de deuxième partie, et que tu nous parles d'une adaptation. On va retrouver Dobby Line d'ailleurs, mais en début de deuxième partie. Donc on va vous laisser une minute, notre générique, et à tout de suite.
Après les informations.